aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro, au sommaire de cette édition du vendredi 1er novembre 2024. Kamala Harris et Donald Trump poursuivent aujourd'hui au pas de charge leur intense duel à distance pour la Maison-Blanche. Les deux candidats visitent aujourd'hui Milwaukee, la plus grande ville du Wisconsin. Dans cette édition, parole de femme africaine sur la présidentielle américaine.
La campagne me semble très rude car elle sort trop souvent du cadre de la présentation des projets de société et débouche malheureusement sur des attaques personnelles.
Analyse à suivre dans un instant. Au Botswana, le parti au pouvoir perd les élections, mettant fin à un règne de 58 ans.
Monsieur Douma Gideon Boko, il n'est pas un vieux et il promet de changer un peu ce que au Botswana était devenu un système inflexible.
André Thomas Haussen de l'Université d'Afrique du Sud nous expliquera les clés de ce passage vers une transition historique. Inondation en Espagne, l'armée en première ligne face au chaos. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Co pour l'instant le journal. Présidentielle américaine, Kamala Harris et Donald Trump poursuivent aujourd'hui au pas de charge leur intense duel à distance pour la Maison-Blanche sans trop s'éloigner puisque les deux candidats ont chacun donné rendez-vous à leurs partisans à Milwaukee, la plus grande ville du Wisconsin. La démocrate y recevra le soutien sur scène de la célèbre rappeuse Cardi B. Le républicain devrait lui continuer à faire ses choux gras de la dernière gaffe du président Joe Biden qui a qualifié les supporters trumpistes d'ordures avant de se reprendre. Notre reporter Ginny Niwa est sur le terrain ici à Washington DC pour prendre le pouls de la situation à 4 jours de la présidentielle américaine. Bonsoir Ginny.
Bonsoir Jean-Roger. Alors écoutez, je me trouve à l'Enfant Plaza, comme vous l'avez dit, à Washington, un endroit réputé pour ses nombreux musées. Les Américains ont l'air de prendre du beau temps avec ce soleil exceptionnel. Et en ce qui concerne les élections, ils répondent avec un pouce en l'air pour dire qu'ils sont enthousiastes à l'idée de voter, Jean-Roger.
Alors qu'est-ce que les électeurs que vous avez rencontrés projettent en termes de changement ?
Alors du changement, oui, ils en veulent et certainement au niveau de leur, du prix élevé. Ils veulent voir un changement, ils veulent se voir être capables de pouvoir acheter des produits qui étaient à moitié prix bien avant. Je vous propose d'écouter ce touriste, Jared, venant de Las Vegas.
Pour moi, ces 4 dernières années, tout est devenu très cher. Je veux juste arrêter ça. Je me rends compte qu'on ne reviendra pas en arrière, mais j'aimerais bien arrêter ce déclin rapide, vous savez. À Vegas, c'est un peu, vous savez, les choses qui étaient sur le menu à 1 $ chez Taco Bell il y a 4 ou 5 ans sont à 2,70 $ maintenant. Et j'ai l'impression que c'est assez représentatif. Tout a augmenté d'au moins le double. Et cela se produit rapidement. Il y a beaucoup de... Il semble que les programmes gouvernementaux soient fous. J'aime l'idée de ne pas devenir trop fou.
C'était notre reporter Ginny Niwa depuis l'Enfant Plaza à Washington DC. La campagne présidentielle américaine se poursuit jusqu'au jour J, c'est-à-dire le 5 novembre. Les deux principaux candidats, Donald Trump et Kamala Harris, multiplient les meetings publics sans jamais perdre l'occasion de se vilipender. Comment est perçue en Afrique cette bataille sans pitié entre l'ex-président républicain et la vice-présidente démocrate? Nathalie Barge a posé la question à des journalistes et communicatrices africaines.
Les propos acerbes entre candidats sont de mise à chaque présidentielle américaine, mais de l'avis de certains analystes, le ton a tendance à monter ces dernières années. Moussa Yeroba, directrice de l'information de Radio Espace Guinée.
C'est vrai que quelquefois, cela peut aller très loin, tel que nous le constatons cette année avec la présidentielle américaine entre Kamala Harris et Donald Trump. Des propos très acerbes, très durs quelquefois, et des actions qui peuvent porter atteinte à la sécurité des différentes personnes. C'est quelque chose qui est propre à la politique. On sait que les gens peuvent aller loin pour accéder au pouvoir, que ce soit aux États-Unis ou un peu partout dans le monde.
Pour sa part, l'ancienne députée malienne Aissata Touré Diallo pose une question d'éthique pour un modèle comme les États-Unis.
Les nations que l'on citait comme étant des exemples démocratiques, si on arrive à un certain niveau de dénigrement, de vilipende pour que l'un ou l'autre des candidats puisse percer ou garder la distance, finalement on se pose la question de, en matière politique, c'est quoi la finalité exactement? On a des groupes de pression, on a des groupes d'influence. À un moment donné, il faut repenser un peu les comportements politiques, revoir un peu les aspects démocratie pour voir le contenu exact et ce qu'on met dedans. Et quelle est la place de la morale et de l'éthique et de la responsabilité individuelle ou collective?
La communicatrice béninoise Yvette Alavo abonde dans le même sens.
On exige beaucoup plus. La crise bat son plein et de part et d'autre, on assistera malheureusement à des élections plus virulentes comme c'est le cas aux États-Unis. Et à un moment donné, il faudrait se poser les bonnes questions pour comprendre si la démocratie telle qu'elle fonctionne dans le monde aujourd'hui, est-ce qu'elle ne mérite pas d'être revue, révisée en fonction des nombreux enjeux qui se présentent afin qu'elle cesse d'être une démocratie qui divise.
La journaliste gabonaise Raissa Silvana Oyaseko note que les attaques ciblées entre Trump et Harris prennent trop d'ampleur dans les médias.
La campagne me semble très rude car elle sort trop souvent du cadre de la présentation des projets de société et débouche malheureusement sur des attaques personnelles. Il y a beaucoup d'intolérance entre les deux candidats. À la violence verbale s'ajoute malheureusement la violence physique. Trump a été victime de deux tentatives d'assassinat alors que certains partisans d'Harris reçoivent des menaces de mort et leur bureau est sous des coups de feu, ce qui est regrettable pour une si grande puissance.
Les joutes verbales en période électorale font en effet de la politique américaine l'un des spectacles les plus suivis dans le monde entier et des centaines de millions de personnes vont encore y assister jusqu'au 5 novembre, le jour de la présidentielle aux États-Unis.
Nous allons maintenant nous intéresser au profil des deux candidats à la présidentielle américaine, en commençant par la candidate démocrate émergeant de l'une des régions les plus diverses et progressistes des États-Unis, Kamala Harris, candidate démocrate à la présidence, a navigué dans une carrière politique entre l'application rigoureuse de la loi et les réformes avant-gardistes. Matt Diebold de la VOA propose ce profil depuis Oakland, en Californie. Le récit est de Gabi Dorsil.
My mother was a brilliant, 5-foot-tall, brown woman with an accent.
Née en 1964, Kamala Harris a une histoire qui commence dans les quartiers diversifiés et progressistes de la région de la baie de San Francisco. Ses parents immigrants, Shyamala Gopalan de l'Inde et Donald Harris de la Jamaïque, se sont rencontrés à Berkeley en Californie, où ces deux brillants étudiants diplômés étaient venus étudier à l'Université de Californie. Dès les années 1960, Berkeley était un centre d'activisme pour les droits civiques et la paix. Harris a dit que ses premiers souvenirs étaient d'être emmené à des rassemblements dans une poussette. En 1970, le mariage des Harris prit fin. Shyamala Gopalan, avec ses deux filles, trouva un appartement à louer dans une zone de Berkeley appelée les bas-quartiers.
Il vivait au-dessus de la garderie de Shelton, dans un modeste appartement de deux chambres et d'une salle de bain.
Carol Porter, amie d'enfance, a rencontré Harris pour la première fois à l'arrêt de bus scolaire.
Nous étions la deuxième classe à intégrer les écoles publiques de Berkeley.
Harris poursuivit ses études à l'université Howard, une université historiquement noire de Washington DC, puis à l'école de droit. À une époque où des niveaux records d'hommes noirs étaient incarcérés en Californie, elle prit un emploi de procureur, un rôle souvent mal perçu dans la communauté afro-américaine.
Elle voulait y entrer et changer les choses afin que les gens ne soient pas poursuivis comme ils l'étaient en raison du racisme systémique et structurel.
En 2002, Harris défie le titulaire d'alors dans une course pour le poste de procureur de San Francisco.
Il n'y avait jamais eu de femme procureure. Elle était vraiment un outsider, mais dès le début, elle avait quelque chose de très spécial.
Harris remporta la course serrée et se mit au travail en augmentant les condamnations et les peines de prison pour les criminels violents, tout en orientant ceux qui étaient condamnés pour des crimes non violents pour la première fois vers son programme de réinsertion appelé Back on Track. Élue procureure générale de Californie en 2010, elle fait pression sur les banques américaines pour un règlement de 20 milliards de dollars pour pratiques de prêts trompeuses, s'attaqua au trafic transfrontalier de drogue et de personnes et défendit l'égalité du mariage. En 2016, Harris est élue au Sénat des États-Unis, où elle va se distinguer rapidement comme une voix influente sur les questions d'immigration, de santé et de réforme de la justice pénale. Connue pour ses questions incisives lors des audiences et son aptitude à tenir les dirigeants puissants responsables, Kamala Harris est devenue une figure éminente sur la scène nationale. Mais lors de sa campagne présidentielle de 2020, la direction de la campagne de Harris a rencontré des difficultés. Hill Duran est un ancien assistant de Harris.
Il y a eu des histoires de rotation élevée du personnel, incapacité à garder des personnes talentueuses dans son entourage.
Quand Biden a remporté l'investiture, il a fait appel à Harris comme candidate à la vice-présidence. Le duo a gagné en novembre 2020, faisant d'elle la première femme et la première personne de couleur à occuper ce poste. Face à une augmentation des tentatives de passage de migrants à la frontière sud des États-Unis, la vice-présidente Harris s'est engagée auprès des dirigeants régionaux pour traiter les causes de l'instabilité et de la pauvreté. Elle est devenue rapidement une cible politique.
Elle était censée être responsable de la sécurité de notre frontière. Et je ne sais même pas si elle y est allée.
Harris s'est sentie plus à l'aise dans son rôle d'émissaire sur la scène mondiale, insistant sur le soutien et apaisant les tensions. Et dans une carrière marquée par des défis relevés et des résultats qui dépassent les attentes, Harris a encore gravi les échelons en devenant la candidate démocrate à la présidence après le retrait inattendu de Joe Biden de la course.
Côté républicain, en un peu plus de 9 ans, l'ancien et peut-être futur président Donald Trump a remodelé le parti républicain dans un pays de plus en plus divisé. Les détails avec Tina Tran de la VOA, le récit est de Jenny Niwa.
The Fox News decision desk can now project that former Vice President Joe Biden has been elected.
C'était censé être la fin, mais lorsque la fin est arrivée, Donald J. Trump, 45e président des États-Unis, n'était pas prêt à admettre sa défaite.
If you count the legal votes, I easily win.
Si vous comptez les votes légaux, je gagne facilement. Si vous comptez les votes illégaux, ils peuvent essayer de vous voler l'élection.
Monsieur Trump a exhorté ses partisans à empêcher le Congrès de certifier ses résultats le 6 janvier 2021.
Nous nous battons comme des diables et si vous ne vous battez pas comme des diables, vous n'aurez plus de pays.
Il en est résulté une scène inimaginable auparavant en Amérique qui a conduit à la deuxième procédure de destitution contre Trump. Son refus d'accepter un non comme réponse est une marque de fabrique pour un homme qui a toujours ignoré les conventions. Rose Butner, New York Times.
Je pense que ce que vous voyez, c'est quelqu'un qui a une confiance incroyable en sa propre intuition.
Rose Butner et Suzanne Craig sont des journalistes d'investigation du New York Times et les co-auteurs de Lucky Loser, un regard peu flatteur sur la façon dont Trump s'est transformé en milliardaire autodidacte. Rose Butner, New York Times.
Depuis le début des années 80, il ne fait plus vraiment confiance aux personnes ayant une expertise dans presque tous les domaines. Il passe toujours outre leurs avis pour que les choses se passent comme il l'entend.
Les bâtiments de Trump portent son nom en grandes lettres d'or, ce qui témoigne de son ambition et de son autopromotion. Suzanne Craig, New York Times.
Il valait 200 millions de dollars lorsqu'il parlait. Il y a eu une interview qu'il a donnée au New York Times. Et ce chiffre est passé à 1 milliard de dollars lorsqu'il a parlé à 60 Minutes 10 ans plus tard.
Trump a excellé dans l'art d'attirer l'attention et de cultiver une marque pour lui-même en tant qu'homme d'affaires. Il a gagné des millions en utilisant son nom sous licence. Mais derrière le succès se cachent des problèmes. Ces entreprises ont fait faillite à 6 reprises, ces casinos ont perdu de l'argent et ont été fermés. Trump a rebondi avec son émission de télévision The Apprentice qui lui a permis de décrocher son plus grand rôle à ce jour.
Ladies and gentlemen, I am officially running.
Mesdames et messieurs, je suis officiellement candidat à la présidence des États-Unis et nous allons rendre à notre pays sa grandeur.
Our country great again.
Sans complexe et sans filtre, Donald Trump était un candidat nationaliste et polarisant.
Quand le Mexique envoie ses gens, ils n'envoient pas ce qu'il y a de mieux. Ils apportent de la drogue, ils apportent le crime. Ce sont des violeurs et certains, je suppose, sont des gens bien.
En tant que président, Trump a nommé 3 juges de la Cour suprême qui ont contribué à abroger le droit fédéral à l'avortement. Début 2020, la pandémie de COVID-19 a mis Trump à l'épreuve. Il a accéléré la mise au point des vaccins vitaux, mais il a également suggéré que les scientifiques étudient la possibilité d'injecter de l'eau de Javel pour tuer le virus. Avec plus de 9 millions d'Américains infectés et plus de 230 000 morts, les électeurs de novembre ont choisi Joe Biden comme prochain président. Après avoir quitté ses fonctions, Donald Trump a fait l'objet de multiples inculpations pénales et est le premier ancien président à avoir été condamné pour crime. Il a survécu à 2 tentatives d'assassinat cette année et cela n'a fait que renforcer les liens entre lui et ses partisans. Il n'a jamais été aussi populaire qu'aujourd'hui. La politique américaine n'a plus jamais été la même depuis l'entrée en scène de Donald Trump. Et l'homme qui a un jour coécrit « L'art du retour » est peut-être en train de mettre au point l'un des plus grands retours de l'histoire américaine.
VOA Afrique, le reste de l'actualité en Afrique et dans le monde. À Maurice, le gouvernement a ordonné de suspendre l'accès aux réseaux sociaux jusqu'à la fin des élections législatives. Le 11 novembre, sur fond de fuite d'écoute téléphonique, le bureau du premier ministre mauricien a déclaré aujourd'hui que ces mesures étaient nécessaires pour préserver la sécurité nationale et l'intégrité du pays. La justice sud-africaine a abandonné aujourd'hui les poursuites pour corruption visant un ancien ministre du parti de l'ANC dans le cadre d'une vaste enquête sur l'ère de l'ex-président Jacob Zuma. Zizi Kodwa, qui fut ministre des Sports, des Arts et de la Culture, était accusé d'avoir perçu environ 78 000 euros de pots de vin en lien avec des contrats signés par la ville de Johannesburg. Le régime militaire du Niger et la société Glascosmos, filiale de l'agence spatiale russe Roscosmos, ont signé aujourd'hui à Niamey un accord pour l'acquisition de 3 satellites afin d'assurer la sécurité de cet État sahélien et de ses voisins frappés par des attaques djihadistes. Il s'agit d'un satellite de communication, d'un satellite de télédétection et d'un radar pour la défense et la sécurité. La Corée du Nord soutiendra la Russie jusqu'à ce qu'elle remporte la guerre en Ukraine, a déclaré aujourd'hui la ministre des Affaires étrangères nord-coréenne qui rencontrait à Moscou son homologue russe Sergueï Lavrov. La diplomate a promis que la Corée du Nord se tiendrait ferme aux côtés de ses camarades russes jusqu'au jour de la victoire. Le ministre russe des Affaires étrangères n'a pas commenté les affirmations des États-Unis et de l'OTAN selon lesquelles la Corée du Nord a envoyé environ 10 000 soldats en Russie. Et le bilan des inondations meurtrières survenues dans l'est de l'Espagne est désormais de 205 morts, ont déclaré les autorités régionales aujourd'hui. À Valence, région la plus touchée par les inondations, au moins 202 personnes sont mortes. 3 autres sont décédées en Castille-La Manche et en Andalousie. Quelques 500 militaires ont été déployés pour rechercher les personnes toujours portées disparues et venir en aide aux survivants. Sans transition, nos dossiers de ce jour avec le Botswana pour commencer, triomphe historique de l'opposition aux législatives. La coalition de gauche Umbrella for Democratic Change, UDC, va donc pouvoir élire à la présidence son candidat Duma Boko, un avocat des droits humains de 54 ans. Le président sortant, Modgusi Matsisi, a reconnu sa défaite. Pour une analyse, Alexandrine Ollongnon a joint en Afrique du Sud, à Pretoria notamment André Thomas Hausen, professeur à l'Université d'Afrique du Sud.
C'est normal dans une démocratie qu'il y ait un changement dans le pouvoir. Alors pour le Botswana, c'est un très bon développement d'avoir un changement dans la gestion politique. Et c'est justement une alliance de tous les partis de l'opposition qui a pu gagner l'élection, une alliance qui s'appelle le parasol de la démocratie, Umbrella for Democratic Change, lidéré par un jeune avocat très dynamique, très populaire, M. Duma Gideon Boko. Il n'est pas un vieux et il promet de changer un peu ce que au Botswana était devenu un système inflexible.
Selon vous, quels sont les facteurs qui ont conduit à ce basculement électoral? Est-ce qu'on peut dire que c'est dû à une perte de confiance dans le parti au pouvoir?
Oui, décidément, l'ancien gouvernement était devenu même un peu bizarre avec une guerre personnelle entre le président Masisi et l'ancien président Ian Khama, qui a mené à une fuite en exil de Ian Khama en Afrique du Sud. En plus, il y a eu toute une chaîne de scandales de corruption autour du gouvernement de Masisi. Ainsi, je pense que au Botswana, c'est un jour de joie, un jour de nouvel espoir pour l'avenir du pays.
Quels seront, selon vous, les défis auxquels l'opposition devra-t-elle faire face maintenant qu'elle sera au pouvoir ?
C'est surtout les conséquences des scandales économiques, des scandales de corruption. Il y a eu l'essai d'installer une centrale thermique pour la production de l'énergie électrique qui est très mal tombée avec des contrats avec la Chine et des installations qui n'ont jamais fonctionné. En plus, il y a peut-être la nécessité de refaire les bonnes relations avec le grand pays voisin, l'Afrique du Sud, des relations qui ont été perturbées par l'inimité de l'ancien président Masisi contre un encore plus ancien président Ian Khama, et aussi le fait que le Botswana est un allié de longue tradition des États-Unis avec une coopération de défense et présence militaire des États-Unis dans la région SADC. Qui n'est pas du tout bien vu par les pays voisins.
André Thomas Hausen, analyste politique. Au Kenya, le nouveau vice-président Abraham Kithure Kindiki, qui était ministre de l'Intérieur depuis 2 ans, a prêté serment ce vendredi. Son investiture conclut des semaines de feuilleton politique autour de la destitution du précédent vice-président Rigathi Gachagua, en froid avec le chef de l'État. Mariama Diallo, chef du bureau de la VOA à Nairobi, revient sur la procédure judiciaire de destitution. Le récit est de Nani Talani.
Le juge Anthony Mira a lu un extrait de la décision pour expliquer pourquoi il laisse le nouveau vice-président du Kenya prendre ses fonctions.
L'intérêt public dans cette affaire favorise le respect de la Constitution qui est en tout état de cause la volonté du peuple. Nous choisissons de nous conformer à cette volonté car l'intérêt public exige que le poste de vice-président ne reste pas vacant.
Au début du mois, le Sénat kényan a voté en faveur de 5 des 11 chefs d'accusation retenus contre l'ancien vice-président Rigathi Gachagua, qui a été destitué, y compris des violations de la Constitution et des accusations de corruption qu'il a rejetées en disant qu'elles étaient motivées par des considérations politiques. Le président William Ruto a rapidement choisi comme vice-président le ministre de l'Intérieur Kithure Kindiki, dont les avocats de M. Gachagua ont contesté la nomination. La haute cour avait suspendu toute action jusqu'à ce qu'elle puisse entendre les deux parties. Depuis lors, la cour a dû répondre aux questions et aux requêtes des avocats de M. Gachagua, notamment en ce qui concerne la validité de la nomination des membres du panel et leur impartialité, qui ont toutes deux été rejetées. Écoutons Chege, un Kenyan.
Le vice-président sortant était trop abrasif. Il n'arrivait pas à modérer son langage.
Suivant Mugalo, Kenyan aussi.
Ce n'était pas bon, surtout quand on met en accusation quelqu'un qui est à l'hôpital. C'était tellement inopportun.
Rigathi Gachagua était le colistier du président Ruto pour l'élection de 2022, mais il avait récemment parlé de sa marginalisation politique, soulignant les frictions et les tensions entre lui et son ancien patron. L'historien Kenneth Ombongi de l'Université de Nairobi se dit surpris que le partenariat Ruto-Gachagua ait duré aussi longtemps.
Je regarde les modèles historiques. Ce qui se passe n'est pas nouveau et était attendu. La fonction de vice-président ou président adjoint a toujours été aussi délicate qu'elle l'est aujourd'hui. Les deux ont les mêmes caractéristiques. Je connais notre président. Il est fort, déterminé, sûr de lui. C'est la même chose pour Gachagua. Nous disons que deux taureaux ne peuvent pas partager le même kraal.
Vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute écho avec Nathalie Bage.
La présidence du Mali a apporté des précisions sur sa page Facebook concernant un accord de coopération avec le groupe russe Yadran dans les secteurs des hydrocarbures et du textile. La signature officielle est prévue prochainement, suivie de l'arrivée d'un groupe d'experts techniques pour entamer les travaux de mise en œuvre, indique le communiqué, précisant que les projets incluent la construction d'une raffinerie d'or, l'approvisionnement en produits pétroliers et la création d'une usine de transformation du coton. La Société financière internationale indiquait avoir réalisé des investissements records de 14,2 milliards de dollars en Afrique durant l'exercice fiscal 2023-2024, soit une hausse de 23% par rapport à l'exercice précédent. 5,5 milliards ont financé le commerce et les petites entreprises, 1,1 milliard ont servi au numérique et 1,9 milliard aux énergies renouvelables. Les investissements de la SFI ont permis de soutenir 130 projets sur le continent. Le Fonds monétaire international a accordé au Kenya près de 606 millions de dollars pour répondre à divers défis économiques. Le pays est confronté à une dette de 78 milliards de dollars et une chute de sa monnaie. La résolution des pressions exceptionnelles sur le financement extérieur au début de l'année a ravivé la confiance des marchés, contribué à stabiliser le shilling et permis une accumulation plus rapide des réserves de change, a noté le FMI.
Place maintenant au sport avec Nanit Alani. Bonsoir Nanit.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
La CAF confirme le programme des derniers matchs pour la Ligue des champions féminines Maroc 2024.
La quatrième édition de la Ligue des champions féminines de la CAN se tiendra du 9 au 23 novembre au Maroc, dans les villes d'El Jadida et de Casablanca. Le tournoi débutera avec un match opposant le TP Mazembe de la RDC aux débutantes sud-africaines de l'Université de Western Cape, suivi par la rencontre entre la SFAR et les Aigles de la Médina du Sénégal. Les matchs vont se dérouler au stade Mamed El Abdi d'El Jadida. Le lendemain, les Mamelodi Sundowns, champions en titre, affronteront le FC Massar d'Égypte, tandis que le CBE d'Éthiopie jouera contre les Edo Queens du Nigeria. La finale est programmée pour le 23 novembre à El Jadida.
Qualification historique pour les Aigles de la Médina au Sénégal, qui sont en route vers la Ligue des champions féminines de la CAF.
Les Aigles de la Médina ont marqué l'histoire en devenant le premier club sénégalais à se qualifier pour la Ligue des champions féminines de la CAN, qui se déroulera au Maroc du 9 au 23 novembre, avec 8 des meilleurs clubs féminins d'Afrique. Après une défaite contre l'AS Mondé 0-2, l'équipe a montré sa résilience en obtenant un match nul de 2 contre les Mogbeno Queens lors de son match suivant.
Éliminatoire du championnat d'Afrique de football scolaire, le Niger accueille 6 nations de la zone B de l'UFOA en novembre 2024.
Le Niger se prépare à accueillir les éliminatoires du championnat d'Afrique de football scolaire qui se tiendront à Niamey du 18 au 24 novembre 2024 après le tirage au sort à Lomé au Togo mercredi. 6 nations chez les garçons et les filles participeront au tournoi pour décrocher le titre de champion de leur zone et une place en finale en 2025. Dans le groupe A, le Niger affrontera le Burkina Faso et le Ghana, tandis que le groupe B sera dirigé par le Bénin, ancien champion, avec la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Les deux premiers de chaque groupe se qualifieront pour la phase finale continentale du championnat d'Afrique de football scolaire de la CAF l'année prochaine.
Natation, Léon Marchand pulvérise le record du monde du 200 mètres 4 nages.
Léon Marchand établit un nouveau record du monde du 200 mètres 4 nages à Singapour, battant la précédente marque de Ryan Loach de près d'une seconde. Lors de la troisième étape de la Coupe du monde en petit bassin, le Français a amélioré son chrono à 1 minute 48 secondes 88 sur centième après avoir établi un record de France et d'Europe à Shanghai. Avec cette performance, il devient le premier nageur à passer sous la barre des 1 minute 49 secondes sur cette distance, écrasant l'ancien record de Ryan Loach datant de 2012.
Page des sports VOA Afrique signée Nanit Alani. Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde, Joselle Morissin. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.
Vous écoutez écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Radio Mwangaza, Lubumbashi, 102.1 FM, Niamey. Radio Tropique, 99.8 FM, Korogo, Côte d'Ivoire. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA.